Jean Piaget, donc sans doute le plus grand psychologue de l'enfant et du développement au XXe siècle, pour l'aspect, on va dire, raisonnement, comme Freud l'était pour l'affectif et l'émotion. Jean Piaget a d'abord eu cette idée de génie de considérer le développement de l'intelligence chez l'enfant comme une forme optimale d'adaptation biologique. Il n'avait pas à l'époque les technologies d'imagerie cérébrale que l'on a aujourd'hui pour réellement tester cette théorie. Il a donc étudié les comportements de l'enfant à travers ce qu'on appelle l'ontogenèse du bébé à l'âge adulte, caractérisé par quatre grands stades. Un premier stade chez le bébé qui serait uniquement sensoriel et moteur, qu'il appelle pour cette raison sensori-moteur, entre la naissance et 2 ans. Après, avec l'arrivée du langage, du dessin, du symbolisme, émerge une première forme de pensée entre 2 et 6-7 ans, encore prélogique, très intuitive. Et Piaget considérait que l'enfant à cet âge, disons l'enfant d'école maternelle, avait un raisonnement prisonnier de ses intuitions visuelles et spatiales. Et à 6-7 ans, l'âge de raison, cher aux philosophes classiques, Piaget a décrit l'émergence d'un stade plus logique, où l'enfant conçoit le nombre, l'inclusion des classes, mais une logique qui est encore très concrète, en rapport avec les objets concrets du monde réel que l'enfant peut manipuler ou maintenir pour un petit temps en mémoire. Et à l'adolescence, vers 11-12 ans, Piaget a décrit l'ultime stade, le quatrième, qui est le stade de la pensée formelle. Et c'est là qu'il disait, cette phrase que nous avons évoquée tout à l'heure, que le réel devient pour l'adolescent un cap particulier du possible. C'est le raisonnement hypothético-déductif, faire des hypothèses et en tirer des déductions. Donc finalement, Piaget avait une très bonne idée au départ, intelligence comme forme d'adaptation biologique, mais il a un peu enfermé cette superbe idée dans un modèle, sans doute, on le découvre aujourd'hui, trop linéaire et hiérarchique des stades du développement.
En tout cas, c'est une ontogenèse bien inscrite dans le biologique, vous venez de le dire à nouveau, Olivier Audet, et qui, d'une certaine manière, conduit chacun des individus dans son développement à des passages obligés, en particulier, qui est très très important, se dégager des manipulations. Et obtenir à partir de l'abstraction. De l'abstraction, c'est-à-dire donc des activités symboliques mentales et qui permettent des jeux. Alors évidemment, ça a été un travail absolument considérable. J'ai en mémoire en particulier les tromperies pour voir justement comment, par exemple, en mettant la même quantité de perles, mais dans deux vases différents, est-ce que la même quantité a été conservée? Et là, la forme fait que selon le stade dans lequel on est, bien le bébé ou l'enfant se trompe.
Et Piaget a découvert ces intuitions perceptives. Ce que vous évoquez peut se faire avec des perles sur une table. On met par exemple 6 perles rapprochées à premier alignement et en dessous 6 perles que l'on écarte sous les yeux de l'enfant. Jusqu'à 6-7 ans, l'enfant va considérer qu'il y a plus de perles là où c'est plus long. Donc son raisonnement numérique, mathématique, est piégé par l'espace. Et Piaget a considéré que c'était ce fameux stade intuitif que j'évoquais qui existe avant 6-7 ans. Autre exemple, les liquides. Il mettait la même quantité de liquide dans un verre étroit ou un verre très large. Et évidemment, le niveau était plus bas dans un des deux cas. L'enfant considérait qu'il y avait plus de liquide là où haut. Ce qui est là aussi une erreur, on va dire, d'intuition physique qui, pour Piaget, se corrigeait et disparaissait définitivement dans le développement parce que pour lui, la direction était d'arriver à un cerveau qui ne serait que logique formelle et sans erreur. En quelque sorte.
Alors évidemment, et vous les signalez, parmi les premières critiques qui ont été faites à cette théorie, enfin, en tout cas au corps de doctrine de Piaget, il y a ceux qui lui ont dit qu'il n'avait pas fait ou il n'avait pas donné assez attention, en particulier à la dimension langagière de toutes ces opérations.
Oui, il y a cet aspect-là qui était la première critique, c'est-à-dire que souvent la difficulté pour l'enfant est dans la formulation de la question par le langage. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cette critique qui finalement était un peu superficielle. D'abord parce qu'on a découvert qu'il y avait des compétences cognitives avant 2 ans, c'est-à-dire avant même l'apparition du langage. Donc ce n'est pas la question du langage en tant que tel. Oui. La critique la plus forte sur Piaget, c'est que quel que soit l'âge, il y a des décalages cognitifs, des erreurs entre la logique et ce que l'enfant répond effectivement, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'il imaginait. Pour tout vous dire, et Piaget était très connu pour cela, à chaque fois que l'on trouvait, par exemple, une erreur plus tardive que ce que le stade piagétien aurait prédit, une erreur de logique chez l'enfant plus grand, chez l'adolescent, voire chez le jeune adulte, ou à l'inverse, des compétences très précoces chez le bébé. Piaget disait, pour que sa théorie continue de marcher sur le plan scientifique, il disait le cerveau se développe de façon logique, mais il y a des décalages. Il appelait cela, quand c'était dans le même stade, un décalage horizontal, et lorsqu'on lui montrait des décalages à travers les âges, hein, par exemple un adolescent qui fait une erreur qu'il ne devrait plus faire, il disait ce sont des décalages verticaux. Et ma critique aujourd'hui, et celle de beaucoup d'auteurs, a été de dire, mais alors la théorie a toujours raison, et pourquoi pas des décalages obliques? S'il y a des décalages dans tous les sens, où est la linéarité du développement logique? Et je pense que ce que l'on découvre aujourd'hui, et que le message que j'ai voulu passer dans ce que sais-je, c'est de dire que finalement, le décalage est plutôt la règle de fonctionnement du cerveau, oui, et non l'exception, comme le disait Piaget, par rapport à un modèle trop logique de l'ontogenèse qui, en effet, capitalisait Aristote, Descartes et le goût pour la logique et mathématique formelle qui caractérisait cette époque du XXe siècle.